On va parler maintenant d'une enquête inédite en France et qui révèle un phénomène rarement évoqué, c'est l'exil de musulmans français. Au cœur d'un livre paru il y a quelques jours aux éditions du Seuil, il s'appelle « La France, tu l'aimes mais tu la quittes ». Et nous sommes en ligne pour en parler avec l'un de ses auteurs. Bonjour Olivier Esteves.
Bonjour.
Comment les personnes que vous avez rencontrées expliquent avoir pris leur décision? Qu'est-ce qui les a poussées à partir?
Alors, donc, parmi les paramètres principaux, il y a des enjeux de discrimination, de racisme, d'islamophobie. Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même ce qui ressort le plus souvent, quoi.
Est-ce qu'il y a un point dans les entretiens que vous avez pu mener, quelque chose qui revient régulièrement? Est-ce qu'on peut identifier un point de bascule ou même plusieurs moments clés qui auraient accéléré le phénomène et qui leur auraient permis d'entériner cette décision?
Oui, alors en fait, dans les entretiens, ce qui revient souvent, c'est quand même l'expression de goutte d'eau, en fait, goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors à titre individuel, ça peut être différents événements qui sont présentés comme autant d'anecdotes, qui est quand même souvent une manière de un peu d'euphémiser un événement assez grave. Après, si on regarde un peu ce qu'on appelle en anglais the big picture, quoi, la plus grande la situation collective, c'est effectivement les événements comme les attentats de 2015 et puis l'atmosphère extrêmement pesante, extrêmement oppressante pour des personnes musulmanes donc françaises, puisque j'insiste sur le fait que la grande majorité des personnes à qui on a parlé sont bel et bien françaises, sont nées en France. Et donc ces personnes se sont senties opprimées, oppressées, effectivement, à travers ce que nous on appelle une islamophobie d'atmosphère.
Alors il faut aussi préciser que ces personnes que vous avez rencontrées représentent une élite. Ce sont des personnes qui sont diplômées avec un certain nombre d'années d'études et qu'elles sont pour l'essentiel parties plutôt jeunes.
Oui, tout à fait. Alors, on a 53% ou 54%, je ne me souviens plus exactement, de notre échantillon, donc qui a bac plus 5. Autrement dit, on a affaire effectivement à une élite à la fois au regard de la population française prise dans son ensemble et une élite aussi au regard de la population musulmane française de façon générale, telle qu'elle est investiguée dans l'enquête Trajectoire et Origine de l'INED, par exemple.
Vous écrivez dans votre introduction que les musulmans quitte la France sans doute de façon croissante, ça ce sont les mots que vous utilisez. Est-ce que vous avez réussi à évaluer le nombre de personnes qui partent et à mesurer aussi une tendance de manière concrète?
Oui, alors c'est une question qui intéresse beaucoup les médias, visiblement, pour toutes sortes de raisons, dans le détail desquelles on n'a pas le temps d'entrer ici. Cette réalité, de fait, est inobjectivable, donc on ne peut pas... pas prétendre que les personnes à qui on a parlé sont les uniques personnes à avoir quitté la France. Et de la même façon, ce serait mensonger de prétendre qu'il y en a 100 fois, 200, 2000 fois plus pour toutes sortes de raisons. Mais effectivement, si on se base uniquement sur notre échantillon, force est de constater qu'on assisterait, donc j'insiste bien sur le conditionnel, on assisterait à un accroissement de cette fuite d'une élite musulmane française.
Alors, la fuite des cerveaux, c'est quelque chose qui est évoqué régulièrement, notamment dans les médias, puisque vous parliez des médias. Et ça, c'est un des points marquants de votre enquête, c'est que ce phénomène spécifique d'exil des musulmans, lui, se fait dans le plus grand silence à la fois médiatique et politique aussi.
Oui, tout à fait. Alors, l'expression de brain drain, donc, qui est l'expression d'origine de fuite des cerveaux, grosso modo, a émergé dans le débat public international depuis le début des années 60. Et au départ, en fait, ce qu'on entend par brain drain, c'est vraiment la fuite de personnes surdiplômées de pays du Sud qui vont dans des pays du Nord. En fait, ce sont des personnes, je sais pas moi, du Nigeria, d'Algérie ou des Philippines qui vont aux États-Unis, par exemple. En fait, ce que nous, on montre à travers notre enquête, c'est que le brain drain dont on parle est beaucoup plus complexe et multiforme que ça. Autrement dit, on a des gens qui quittent un pays du Nord développé, bardé souvent de diplômes intéressants sur le marché du travail, et qui vont donc alors dans d'autres pays du Nord, à savoir effectivement le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi qui parfois retournent, entre guillemets, je mets des guillemets parce que précisément ces gens sont nés en France, qui retournent au bled en fait, qui retournent en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, ou parfois en Turquie pour les personnes qui sont d'origine turque. Donc c'est un brain drain qui est vraiment extrêmement, extrêmement complexe en fait, auquel on a affaire.
On l'entend en vous écoutant, les personnes que vous avez interrogées vivent aujourd'hui dans des pays qui sont très différents, même si majoritairement ce sont des pays occidentaux, mais vous avez parlé de l'Algérie, du Maroc, vous parlez aussi à quelqu'un qui vit aujourd'hui à Dubaï. Et en fait, ce qu'elles expliquent, c'est que la France fait vraiment figure d'exception dans le traitement qui est réservé aux musulmans.
Oui, alors ce sur quoi il faut vraiment insister, c'est le fait qu'effectivement, l'islamophobie ou le racisme anti-musulman, quel que soit le vocable qu'on va utiliser, n'est pas un apanage franco-français, mais que en France, effectivement, en termes d'intensité, il n'y a vraiment pas de comparaison avec même d'autres pays européens. Autrement dit, on a par exemple parlé à quelqu'un qui habite à Dunkerque et qui a grandi à Dunkerque, qui est né à Dunkerque et qui a vécu donc 3 ans à Bruxelles pour y travailler et qui nous dit, voilà, il y a 150 km de différence entre Dunkerque et Bruxelles, mais quand on arrive à Bruxelles, c'est pas qu'on a l'impression d'être sur une autre planète, mais le fait est que c'est complètement différent. Et cette personne, maintenant, habite à New York après plusieurs années à San Francisco et n'envisage pas du tout de revenir en France.
Qu'est-ce qui revient dans tous les témoignages justement sur ce traitement qui serait particulier en France?
Ben, en fait, ce qui revient, c'est ce que j'ai déjà dit, et souvent, cette conscientisation, elle est, enfin, pas souvent, mais donc le plus souvent, cette conscientisation, elle existe avant d'avoir quitté la France, puisqu'effectivement, c'est une motivation principale au départ. Mais il y a aussi souvent des situations où, en fait, des personnes sont parties à l'étranger pour des raisons presque strictement professionnelles, ou pour apprendre l'anglais, par exemple, et en ayant vécu au Canada, aux États-Unis plusieurs années, se disent, mais moi, des situations que je considérais comme normales en France, eh bien, maintenant que j'ai pris du recul, je les considérerais comme anormales. Puisque ici, on n'a pas besoin de se taire, on n'a pas besoin de cacher son origine algérienne, on n'a pas, c'est pas nécessaire de cacher le fait qu'on est effectivement de culture arabe, alors qu'en France, en fait, j'étais systématiquement en train de jouer un rôle, en fait, j'étais en train de montrer que j'étais quelqu'un que de fait je n'étais pas, puisque je suis plus complexe que ça, je suis français ou française, mais je suis aussi d'origine musulmane ou d'origine arabe ou de culture musulmane.
Et ça, c'est quelque chose que vous aussi, chercheurs, les auteurs de ce livre, aviez expérimenté, puisque vous écrivez que vous aussi, vous avez vécu dans d'autres pays que la France.
Oui, alors ça c'est un autre élément qui est important. Alors je pourrais vous fournir quantité d'anecdotes là-dessus, hein, mais le fait est que d'avoir un peu étudié, d'avoir enseigné. Bon, moi à titre personnel, j'étais prof invité à l'université de Montréal en 2022-2023. Bon, ben voilà, quand on arrive à Montréal, on a beau effectivement parler français, on est vraiment sur une autre planète, quoi. Quand je regarde par exemple les informations télévisées sur CBC, là, donc Canadian Broadcasting Company, la personne qui présente le JT du soir, donc l'équivalent de ce que serait, je sais pas moi, Anne-Sophie Lapix au Canada, c'est une convertie qui s'appelle Ginella Massa et qui porte un hijab. Ça veut dire qu'il y a des millions de Canadiens qui regardent la télé le soir, qui regardent les infos et qui, en fait, regardent un JT qui est présenté par une femme qui porte un hijab sans que ça pose véritablement de problème à qui que ce soit. En fait, cette personne, elle est évaluée sur ses compétences en tant que journaliste, pas sur le fait qu'effectivement, elle porte un voile.
Je vous remercie beaucoup, Olivier Estève, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes
Merci à vous.
professeur, merci. Vous êtes professeur à l'Université de Lille et que vous avez écrit avec Alice Picard et Julien Talpin, donc ce livre, La France, tu l'aimes mais tu la quittes, enquête sur la diaspora française musulmane, qui est paru vendredi dernier aux éditions du Seuil.